Sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il vient de l'enfer et vit le paradis sur terre. Alors je ne sais pas si notre invité Barmak Akram serait d'accord avec cette formule, mais il y a un petit peu de ça. Né en 66 à Kaboul, ce trublion lâche le Serwal et les tanks soviétiques en 81 pour une autre condition, celle de réfugié politique en France. Aujourd'hui, ce plasticien, musicien, réalisateur, diplômé de la FEMIS, signe son premier long, L'enfant de Kaboul, premier film dans l'histoire du cinéma afghan à avoir été projeté au cinéma de Kaboul, film auréolé du prix des droits de l'homme à la dernière Mostra de Venise. Alors imaginez une caméra plongée dans le tohu-bohu d'un Kaboul exsangue, ravagé par 25 ans de guerre. On y suit Khaled, chauffeur de taxi, abordé par une femme en tchadri qui a un bébé dans les bras. Extrait.
استاد زیاد گفتی.
زیادی چی گفتی؟ از قیمت تل خبر داری؟ برو که زنوی چادری دار خوشم نمیه. یکان دفعه دوزا خدا زیرش پت میکنه.
استاد یک سیل پدارم تا یک جای برسانیم.
سلام برمک اکرم.
سلام شما خوب استین؟
Alors cette première scène de l'enfant de Kaboul où l'on voit une femme entièrement voilée monter dans un taxi et y abandonner son bébé pourrait laisser penser qu'on va partir pour 1h30 de tragédie. En fait, pas du tout.
Oui, c'était un départ comme ça, comme un petit effet de choc pour le spectateur, pour le saisir et ensuite le prendre par la main et l'emmener dans les rues et chez les habitants de Kaboul.
Vous diriez que vous signez une comédie ?
C'est une tragicomédie, un peu comme The Kid de Charlie Chaplin.
Revisité à Kaboul. Hein
oui.
Alors, cette scène d'abandon est finalement un prétexte pour donner à voir le quotidien des Afghans, à commencer par ce chauffeur de taxi. Donc, dans la vie, c'est un père de famille de 4 filles. Il se retrouve donc avec un bébé dans les bras, il ne sait pas très bien qu'en faire. Il va errer d'ONG, en orphelinat, jusqu'à Radio Kaboul. Et en fait, vous enfilez, si j'ose dire, des scènes les plus cocasses, les unes que les autres. À commencer par la scène du commissariat, puis de la pharmacie, puis du barrage avant le couvre-feu.
Oui, c'est comme vous dites, un prétexte scénaristique qui m'a permis de voyager dans la ville. Moi, c'est ce que je voulais montrer, en fait, l'enfant de Kaboul. C'est aussi bien sur un enfant que sur Kaboul. Donc, et c'est quelque part aussi l'enfance de Kaboul, la renaissance de Kaboul. Et à l'image de cette ville qui renaissait, cet enfant, ce nouveau-né, me permettait d'aller visiter les ruines, les bureaux, les commissariats, toute la ville entière, avec un chauffeur de taxi, pour montrer aux gens ce que c'est que le vrai Kaboul. Parce que finalement, j'étais assez frustré avec les médias qui reflètent toujours une image de Kaboul qui est toujours la même. Quelques femmes voilées, quelques barbus et puis quelques bombes qui explosent. Et on ne voit pas la vie des gens. On ne va pas chez les gens. D'ailleurs, le journaliste occidental n'est pas forcément le bienvenu parce que même s'il va chez les gens, les femmes ne vont pas venir le voir ou dîner avec lui. Et là, je prenais en fait le spectateur par la main en l'invitant chez un chauffeur de taxi.
Et on découvre que c'est la vie de la débrouille. Un biberon à Kaboul, c'est toute une aventure.
Alors c'est effectivement le biberon dans le film est un peu l'objet emblématique parce que à la pharmacie, comme il y a très peu de moyens, effectivement, il n'a plus de biberon, mais il y a juste la tétine qui est en haut.
Et du coup, coûte une fortune.
Ouais, qui coûte une fortune. Et puis le lait en poudre coûte très cher aussi. Et il bricole un biberon avec une bouteille de Coca. C'est pas les dieux sont tombés sur la tête, oui. Mais
c'est vrai qu'il y a un clin d'œil là quand même. Hein. Ce qui est joli, c'est que sans commentaire, je dirais, vous posez résolument du côté des femmes et des enfants dans ce film.
Ah oui, et là, vraiment, vous avez pointé les deux choses dont je voulais parler dans ce film, parce que finalement, une guerre, les premières victimes d'une guerre, c'est les femmes et les enfants. Les hommes partent au combat, ils meurent, donc ça fait des veuves, ça fait des orphelins, Et aujourd'hui, le problème de l'Afghanistan, c'est surtout ça. C'est une nation qui compte énormément d'orphelins et tous ces enfants abandonnés qui n'ont pas d'autre moyen que d'aller travailler. Parce que si on n'a pas de père, comme la mère ne peut pas travailler, forcément, les enfants sont obligés d'aller apporter le pain de la maison.
L'identité de ce bébé, de l'enfant de Kaboul, qui a failli avoir un peu le même sort que Moïse bébé, est révélée à la fin du film. Est-ce qu'on peut nous la révéler, cette identité ?
Oui, on peut dire son nom, c'est-à-dire en fait c'était assez symbolique. La mère de l'enfant s'appelle Malalai aussi, c'est l'équivalent de la Marianne ou de la Jeanne d'Arc en France, une femme qui s'était battue contre les Anglais pour les mettre dehors. Et son enfant, à la fin, on découvre qu'il s'appelle Massoud. Et il fait un clin d'œil, d'ailleurs, dans le film, qui s'est produit réellement. Et du coup, c'est un peu un clin d'œil, à la fin, pour donner une note d'espoir.
Alors, le premier titre qui va ouvrir votre ensemble majeur, Barmak Akram, c'est une chanson afghane que vous nous avez ramenée de votre discothèque personnelle. Il s'agit d'un certain Ahmed Zahir, l'Elvis afghan, dites-vous.
Oui, Ahmed Zahir, c'était un chanteur qui était très très populaire dans les années 80, jusqu'aux années 80, quand il a été assassiné, un peu mort très jeune. Et ses chansons étaient absolument révolutionnaires parce qu'il avait mélangé la musique occidentale et c'était très moderne. Voilà, dans cette chanson, il dit « Pourvu qu'à la saison de fleurs, je puisse arrêter de boire. »
Shake man the mouse on me one that can make one
Zahir, que vous pouvez retrouver, j'en suis sûre, en pépite hein, sur notre blog J'ai deux amours. Et ça se passe dans le programme de notre invité Barmak Akram, un enfant de Kaboul qui se fait son cinéma en France.
Que savez-vous de vos ancêtres?
Ce que je sais de mes ancêtres, c'est que de l'histoire orale, ce que m'a raconté ma maman, comme quoi, en fait, mon grand-père avait... Ils étaient 7 frères et les 6 frères ont été tués en faisant la résistance pour sortir les Anglais de l'Afghanistan. Et autrement dit, donc mon grand-père était un peu le seul survivant qui est venu ensuite s'installer de Kandahar à Kaboul. Et ils étaient donc d'une grande famille proche de la famille royale, et qui sont donc de la famille Barzai. Et une fois installés à Kaboul, ils sont devenus totalement persanophones et personne ne parlait plus le pachto dans ma famille.
Donc ethnie pachtoune du côté maternel.
Voilà. Mmh. Et du côté de mon père, depuis 7 générations, ils sont installés à Kaboul. Et mon grand-père, pareil, il a participé à la résistance contre les Anglais. Il a protégé à un moment donc, le roi Nader Shah quand il était en cavale à cause des Anglais. Et quand Nader Shah était au pouvoir, du coup, mon grand-père travaillait à la cour. Et voilà, mon père, par contre, a fait une rupture un peu avec tout ce qui est la famille royale et la cour, parce que c'était un intellectuel qui a fait ses études en Angleterre et qui est devenu ingénieur. Et c'est un des fondateurs de la maison de la radio à Kaboul.
Ah oui.
Il a installé, il était au départ le directeur technique parce qu'il était ingénieur en télécommunication. Donc il a vraiment installé la maison de la radio dans les années 50-60. Et voilà, ce que je sais de mes ancêtres, c'est qu'ils étaient probablement, il y a quelques générations, des nomades. Et aujourd'hui, moi-même, je le suis redevenu aussi. À mon tour, je suis nomade en voyageant.
Un petit peu sédentaire quand même. On en reparlera de ça tout à l'heure. Votre père vous a nommé Barmak, qui est un nom historique. Pour quelle raison?
Barmak, en fait, c'est un nom des familles Barmakides qui étaient des Zoroastriens autrefois. Et dans la cour de Haroun Rachid, quand l'islam a conquis la terre afghane, c'était une famille très puissante et c'était les premiers Afghans qui ont demandé l'indépendance par rapport au calife arabe. Et pour cette raison, mon père m'a appelé Barmak, un peu comme les premiers Afghans indépendantistes.
Wow. Que de symboles sur vos épaules, hein, entre tous ces résistants du côté grands-parents.
Oui, c'est vrai. Mais moi-même, en fait, à ma manière, j'ai fait la résistance, bien qu'en Afghanistan, quand j'y retourne aujourd'hui, les gens me disent « tu t'es enfui pendant la guerre et tu n'as pas fait, tu n'étais pas là pendant les combats ». Donc t'es un évadé, mais en fait c'était pas vraiment ça, parce que mon père nous rappelait toujours qu'une manière de se battre, c'était d'étudier et d'apprendre pour ensuite faire quelque chose en Afghanistan une fois que ça sera libre.
Alors vous naissez à Kaboul en 65 et puis à l'âge de 6 ans vous vous retrouvez à Beyrouth, c'est ça?
Oui.
Et puis ensuite vous avez deux vies quoi, une enfance libanaise et puis une enfance afghane. Quels souvenirs vous en gardez rapidement?
Ah ben j'ai connu le Liban d'avant la guerre, donc comme on disait la Suisse de l'Orient autrefois. Une sécurité, un paysage magnifique. Les week-ends, on allait quelquefois en Syrie. Parfois, on allait au bord de la mer. Et j'ai le souvenir que pendant la même journée, on a vu la neige et le bord et la plage. Et que de paysages magnifiques et une paix incroyable. Et c'est d'ailleurs au Liban que j'ai commencé à voir des films dès mon jeune âge, parce qu'on pouvait aller au cinéma avec mon frère et ma sœur. Et voilà, c'est de très très beaux souvenirs.
Et vous revenez donc en Afghanistan de 71 à 81. Alors avant que les Russes n'entrent à Kaboul en 80, à quoi ressemble la ville? Parce qu'on la voit bien dans votre film, et puis on la voit dans les journaux. C'est une ville détruite, hein, où chacun ne fait plus que survivre, plus que vivre. Mais à quoi ressemble ce Kaboul des années 80?
Ça a été un Kaboul qui commençait à se développer, qui commençait à se moderniser et qui, à l'image de l'Iran d'autrefois, s'occidentaliser énormément.
J'ai du mal avec ce mot-là, moi c'était avec le mot abandon tout à l'heure, 15 partout.
Et du coup, on pouvait voir des femmes qui étaient en mini-jupe.
Votre propre mère?
Ma mère, par exemple, elle faisait de la moto, assise à l'arrière de la moto avec mon père en jupe, ce qui est absolument inimaginable aujourd'hui.
Il faut rappeler qu'entre 63 et 73, le pays passe de la monarchie constitutionnelle à la République et que donc il y a des partis d'opposition qui sont créés. Il y a une véritable liberté d'expression à ce moment-là.
Il y en avait déjà de plus en plus, même du temps du roi, parce que c'était une monarchie constitutionnelle et la liberté de la presse a commencé sous le roi. Mais ensuite, quand son cousin a fait le coup d'État et a annoncé une République, il y avait un peu plus de liberté de presse, mais ce n'était pas non plus une vraie liberté de presse comme on peut imaginer aujourd'hui d'ailleurs.
Bon, et puis il faut rappeler simplement, mais on n'a pas le temps de l'évoquer davantage, que Kaboul a été la capitale des 68 arts.
Ah oui, ça c'était vraiment l'image que j'ai des années avant 80. C'est que dans les rues de Kaboul, moi quand j'étais enfant, quand j'allais au lycée, quand je revenais, je voyais des babacools, je voyais des touristes, on les appelait les touristes, ou les babacools, on les appelait, ils étaient barbus, des cheveux longs, des pantalons pattes d'eff, ils venaient en deux chevaux, il y avait des réunions de deux chevaux où il y avait plus de 300 deux chevaux qui se réunissaient à Kaboul. Et donc c'était un peu le voyage initiatique dans ces années-là. Tout le monde allait vers le Khaybar Pass et en passant par l'Afghanistan pour passer du bon temps et aussi aller chez les Afghans qui sont très accueillants.
Et résultat, au plus fort de la guerre, les champs de pavots continuent de fleurir la ville. Résultat, vous, pendant ce temps-là, vous êtes le vilain petit canard de la famille. Vous choisissez la musique, c'est interdit, hein, même dans votre famille ouverte. Résultat, 20 ans plus tard, vous rencontrez du beau linge, Barmak Akram. Par exemple, cette bombe anglaise d'origine indienne, la très sweet Sushila Raman, pour qui vous composez l'âme volatile qu'on va écouter, car vous êtes aussi auteur, compositeur et puis interprète tout à l'heure. Alors, vous cueillez comme ça les jeunes filles en leur écrivant des chansons?
Écoutez, en fait, on avait un peu une histoire commune, exilés tous les deux. Et normalement, au départ, j'ai commencé à faire des films pour elle, des vidéoclips, et elle a connu ce texte qui lui a beaucoup plu. Et elle tenait à la chanter.
Sushila Raman, dans le programme en sol majeur de Barmak Akram. Sushila Raman dans le programme de notre invité Barmak Akram, sorte de Dadakul de Kaboul qui revient nous parler de Marcel Duchamp dans 3 minutes.